Audible Studio présente Fenêtre sur la peur de Dean Koontz, traduit de l'américain par Sébastien Danchin, lu par Pascal Chemin. Créer une dentelle neuronale dans le cerveau est le plus sûr moyen pour l'humanité de parvenir à la symbiose avec les machines. Elon Musk. C'est étrange d'être aussi ignorant, de rechercher les mauvais avis, de bricoler en essayant de comprendre, de confondre la valeur et le prix. Paul Simon, So Beautiful or So What. Première partie, Cuba. Chapitre 1. Les immenses baies à triple vitrage du bureau de Wainwright Hollister s'ouvre sur les vastes plaines qui s'élèvent doucement en direction des collines, encadrées en arrière-plan par les silhouettes majestueuses des rocheuses surgies de la terre à la suite d'un cataclysme ancestral. Si le mot « cataclysme » est synonyme de désastre ou de bouleversement, il l'est aussi du terme « révolution ». On ne pourrait imaginer spectacle mieux adapté, car l'homme qui se tient face à la paroi vitrée dirige la plus grande révolution de tous les temps. La plus grande et la dernière. On approche de la fin d'une ère au terme de laquelle s'imposera pour toujours sa vision d'un monde pacifié. Dans l'attente de cet instant charnière, il lui reste certaines obligations à honorer. Il lui faudra notamment tuer un ennemi de la révolution. Dans quelques heures, lorsque l'une des ultimes tempêtes de neige de la saison s'abattra sur les hauts plateaux situés à l'est de Denver, la chasse commencera. Et, des deux protagonistes, l'un mourra sous les coups de l'autre. Cette perspective n'enchante pas Wainwright ou Harvey Hollister, mais elle ne l'effraie pas non plus. L'essentiel à ses yeux est de se comporter en toutes circonstances avec une force de caractère et un sens des responsabilités qui faisaient défaut à son père, Orenthal Hollister. Entre autres choses, cela signifie se charger personnellement des basses œuvres lorsqu'il s'agit d'éliminer un adversaire. On ne peut prétendre s'imposer dans ce monde de loups, ni même se joindre à la meute, si l'on est incapable de se salir les mains de temps à autre, si l'on n'a pas le courage de prendre des risques physiques. La chasse se déroulera ici, dans son ranch de Crystal Creek, près de 5000 hectares de prairies et de forêts de pins. Une chasse inégale, car Hollister ne croit guère à l'équité dont il ne sent la présence nulle part dans la nature. L'équité est une illusion tout juste bonne pour les faibles et les incultes, une promesse creuse faite pour ceux qui manipulent les masses à leur profit. Sa proie disposera néanmoins d'une chance infime, mais réelle. Orenthal, le père de Hollister, était aussi puissant physiquement que financièrement, mais il avait un cœur de lâche. S'il avait choisi de recourir à la violence pour mener ses affaires à bien, jamais il n'aurait accordé la moindre chance à sa proie. La chasse n'aurait été qu'un rituel vide de sens, destiné à consacrer son propre triomphe au prix de la vie du gibier. Le système de surveillance dont est équipée la résidence de 4000 mètres carrés de Hollister fait entendre sa voix féminine feutrée.
Thomas Buckle vient d'entrer dans la bibliothèque.
Thomas Buckle est arrivé de Los Angeles. Unique passager du Gulfstream 5 de Hollister, il a atterri 2 heures plus tôt sur la piste de Crystal Creek, avant de rejoindre la résidence de son hôte à bord d'une Rolls-Royce Phantom et de prendre possession d'une suite au rez-de-chaussée. Il ne verra probablement pas l'aube se lever. Le ranch est un bâtiment ultra-moderne en pierre de taille, verre et acier. D'épais tapis persans lourdement décorés flottent sur le sol de grès à la façon d'îlots tropicaux sur une mer glacée. La bibliothèque renferme les 25 000 volumes que Hollister père, amateur invétéré de littérature, a légués à son fils. Paradoxalement, ce dernier n'a aucun goût pour la fiction. Wainwright Warwick Hollister est un réaliste consommé, convaincu que l'existence repose sur 2 piliers incontournables. L'argent et le pouvoir. Eux seuls sont en mesure de le prémunir contre le chaos ambiant, tout en lui offrant une vie de plaisir. Quand Hollister n'est pas en mesure d'acheter quelqu'un, il le détruit. Les autres ne sont à ses yeux que des outils,
Ceux qui refusent de se laisser utiliser deviennent des obstacles qu'il lui faut briser ou balayer, à moins de les éliminer. Faute de trouver la moindre utilité à la bibliothèque paternelle, Hollister a envisagé un temps d'en faire don à une association de bienfaisance ou une université quelconque, avant de l'installer ici, où elle sert à lui rappeler la faiblesse coupable de son géniteur. Il est 13 heures lorsque Hollister rejoint Thomas Buckle dans la bibliothèque. Ce dernier se tourne vers son hôte. « Quelle collection superbe ! Des éditions originales de tout ou presque. De Ray Bradbury à Tom Wolfe, en passant par Hamet et Hemingway. Stark et Steinbeck. Bel éclectisme !» Âgé de 26 ans, Buckle pourrait sans peine être acteur s'il ne rêvait pas d'une carrière de réalisateur. Il a déjà signé 2 longs-métrages indépendants qui ont suscité l'intérêt de la critique, même si le succès n'a pas été au rendez-vous. C'est un jeune homme aussi ambitieux que talentueux, mais son regard tranche avec les habitudes hollywoodiennes, ce qui limite ses possibilités. Buckle a reçu un appel de Wainwright Hollister en personne. Celui-ci lui a fait part de son admiration et l'a invité à venir discuter affaires. C'est un mensonge, mais au même titre que les gens sont de simples instruments, le mensonge n'est qu'un outil destiné à mieux manipuler son prochain. Hollister a brièvement accueilli le réalisateur à son arrivée. L'heure n'est plus aux présentations et c'est avec un sourire qu'il s'adresse à son invité. Pourquoi ne pas vous emparer de l'un de ses romans, s'il reste inédit à l'écran, afin de l'utiliser pour notre premier projet commun? Wainwright Hollister est l'être le moins sentimental au monde. La notion même d'émotion lui est inconnue. Mais il a le don d'afficher sur son visage avenant un sourire capable de charmer ses interlocuteurs. Ceux-ci croient y lire de la compassion, alors qu'il n'éprouve que mépris, de la bienveillance quand il ne ressent que cruauté, de l'humilité en lieu et place de la condescendance dont il les gratifie. Universellement loué pour sa douceur et son sens inné de l'amitié, il est incapable de voir en autrui davantage qu'un étranger. Ce sourire factice lui sert avant tout à duper ceux dont il croise la route. Thomas Buckle, luxueusement traité lors de ce déplacement dans le Colorado, prend au premier degré la proposition de son hôte et pose un regard interrogateur sur les rayonnages. « Je ne voudrais pas choisir à la légère, monsieur. Il me faudrait prendre le temps de mieux découvrir votre bibliothèque. »« Vous en aurez tout le loisir plus tard, » ment Hollister. « Commençons par aller déjeuner. Et appelez-moi Wayne. Wainwright est trop ampoulé. Quant à Warwick, c'est un prénom digne d'un méchant dans un film de super-héros. » Thomas Buckle est un jeune homme méritant. Son père, tailleur de profession, est employé dans une teinturerie, tandis que sa mère est couturière dans un grand magasin. Ses parents l'ont aidé lorsqu'il s'est lancé dans des études de cinéma, mais c'est lui qui en a financé l'essentiel en accumulant les petits boulots depuis le lycée. Il a limité au plus juste sa rémunération de réalisateur et scénariste lors du tournage de ses 2 films afin d'augmenter le budget réservé aux acteurs et aux décors. Il est trop naïf pour comprendre que le producteur avec lequel il s'est associé a trouvé le moyen de s'approprier une partie des sommes avancées par les studios, ce qu'a découvert Hollister en s'intéressant de près aux affaires de Buckle. À l'image de tous les gens élevés par des parents honnêtes, des artistes sincères et de ceux qui croient aux rêves américains, le jeune homme compense sa détermination par un manque de sens commun. Il lui reste beaucoup à apprendre, mais peu de temps pour y parvenir. En se dirigeant vers la salle à manger en compagnie de son hôte, Tom Buckle ne peut s'empêcher d'admirer à voix haute le luxe de cette demeure et la qualité des tableaux qui en ornent les murs. Des œuvres signées Jackson Pollock, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Damien Hirst. Cet enfant issu d'un milieu modeste est subjugué par l'immense richesse de Hollister, au même titre que l'apprenti sorcier tombe sous le charme de son maître le jour où il entre à son service. Il n'y a aucune envie chez lui, aucun signe de cupidité. En tant que cinéaste, il est tout bonnement amoureux du beau. Il voit dans l'opulence de cette propriété un cadre propice à un joli scénario. Hollister se pique au jeu et prend plaisir à répondre aux questions de son visiteur, Il lui raconte des anecdotes sur la construction du bâtiment et l'acquisition de ses collections. Il attend que Tom Buckle soit tombé sous son charme pour passer un bras protecteur autour de ses épaules. Buckle est loin de s'étonner ou de se cabrer face à une telle familiarité. Les honnêtes gens ne sont pas à leur avantage dans l'univers du mensonge. Ce malheureux idiot a déjà signé son arrêt de mort.